Passage de la faculté de juger du beau à celle de juger du sublime. Le beau et le sublime s'accordent en ce que tous deux plaisent par eux-mêmes. En outre, ni l'un ni l'autre ne suppose de jugement sensible ni de jugement logiquement déterminant, mais un jugement de réflexion. Par conséquent, la satisfaction qui s'y attache ne dépend pas d'une sensation, comme celle de l'agréable, ni d'un concept déterminé comme celle du bien, quoiqu'elle se rapporte à des concepts, mais qui restent indéterminés. La satisfaction est liée à la simple présentation ou à la faculté de présentation. Elle exprime l'accord de cette faculté ou de l'imagination dans une intuition donnée avec le pouvoir de fournir des concepts que possèdent l'entendement et la raison. Aussi, le beau et le sublime ne donne-t-il lieu qu'à des jugements particuliers, mais qui s'attribuent une valeur universelle, quoiqu'il ne prétende qu'au sentiment de plaisir et non point à une connaissance de l'objet. Mais il y a entre l'un et l'autre, le beau et le sublime, des différences considérables. Le beau de la nature concerne la forme de l'objet, laquelle consiste dans la limitation. Le sublime, au contraire, doit être cherché dans un objet sans forme, en tant qu'on se représente dans cet objet ou à son occasion l'illimitation, en concevant en outre dans celle-ci la totalité. D'où il suit que nous regardons le beau comme la présentation d'un concept indéterminé de l'entendement, le sublime comme la présentation d'un concept indéterminé de la raison. D'un côté, la satisfaction est liée à la représentation de la qualité, de l'autre à celle de la quantité. Autre différence entre ces deux espèces de satisfaction, la première contient le sentiment d'une excitation directe des forces vitales, et pour cette raison, elle n'est pas incompatible avec les charmes qui attirent la sensibilité et avec les jeux de l'imagination. La seconde, celle liée au sublime, est un plaisir qui ne se produit qu'indirectement, c'est-à-dire qui n'est excité que par le sentiment d'une suspension momentanée des forces vitales et de l'effusion qui la suit, et qui en est devenue plus forte. Ce n'est plus par conséquent l'émotion d'un jeu, mais quelque chose de sérieux, produit par l'occupation de l'imagination. Aussi, le sentiment du sublime est-il incompatible avec toute espèce de charme ? Et comme l'esprit ne s'y sent pas seulement attiré par l'objet, mais aussi repoussé, cette satisfaction est moins un plaisir positif qu'un sentiment d'admiration ou de respect, c'est-à-dire, pour lui donner le nom qu'elle mérite, un plaisir négatif. Mais voici la différence la plus importante, la différence essentielle entre le sublime et le beau. Considérons, comme il est juste, le sublime dans les objets de la nature. Le sublime dans l'art est toujours soumis à la condition de s'accorder avec la nature. Et plaçons à côté la beauté naturelle, celle qui existe par elle-même. La beauté naturelle renferme une finalité de forme, par laquelle l'objet paraît avoir été prédéterminé pour notre imagination. Et elle constitue ainsi en soi un objet de satisfaction. Mais l'objet qui excite en nous sans le secours d'aucun raisonnement, par la simple appréhension que nous en avons, le sentiment du sublime peut paraître, quant à la forme, discordant avec notre faculté de juger et avec notre faculté de présentation, et être jugé cependant d'autant plus sublime qu'il semble faire plus de violence à l'imagination. On voit par là que nous nous exprimons en général d'une manière inexacte en appelant sublime un objet de la nature, quoique nous puissions justement nommer beau un grand nombre de ces objets. Car comment peut-on désigner, par une expression qui marque l'assentiment, ce qui en soi est saisi comme discordant ? Tout ce que nous pouvons dire de l'objet, c'est qu'il est propre à servir de présentation à une sublimité qui peut être trouvée dans l'esprit. Car nulle forme sensible ne peut contenir le sublime proprement dit. Il repose uniquement sur des idées de la raison, qui, bien qu'on ne puisse trouver une exhibition qui leur convienne, sont arrêtées et rappelées dans l'esprit par cette disconvenance même que nous trouvons entre elles et les choses sensibles. Ainsi, le vaste océan, soulevé par la tempête, ne peut être appelé sublime. Son aspect est terrible, et il faut que l'esprit soit déjà rempli de diverses idées pour qu'une telle intuition détermine en lui un sentiment qui lui-même est sublime, puisqu'il le pousse à négliger la sensibilité et à s'occuper d'idées qui ont une plus haute destination. La beauté de la nature, celle qui existe par elle-même, nous découvre une technique naturelle et nous la représente comme un système de lois dont nous ne trouvons pas le principe dans notre entendement. Ce principe, c'est celui d'une finalité relative à l'usage du jugement dans son application au phénomène. Et de là vient que nous ne les rapportons plus à la nature comme à un mécanisme sans but, mais comme à un art. Par là, il est vrai, notre connaissance des objets de la nature ne se trouve point étendue, mais notre concept de la nature cesse d'être le concept d'un pur mécanisme. Il devient celui d'un art, et cela nous invite à entreprendre de profondes recherches sur la possibilité d'une telle forme. Mais dans ce que nous avons coutume d'appeler sublime de la nature, il n'y a rien qui nous conduise à des principes objectifs particuliers et à des formes de la nature conformes à ces principes. Car la nature éveille surtout les idées du sublime par le spectacle du chaos, du désordre et de la dévastation, pourvu qu'elle y montre de la grandeur et de la puissance. On voit que le concept du sublime, de la nature, n'est pas à beaucoup près aussi important et aussi riche en conséquence que celui du beau, et qu'il ne révèle en général aucune finalité dans la nature, mais seulement dans l'usage que nous pouvons faire des intuitions de la nature, pour nous rendre sensibles une finalité tout à fait indépendante de celle-ci. Le principe du beau de la nature doit être recherché hors de nous, celui du sublime en nous, dans une disposition de l'esprit qui donne à la représentation de la nature un caractère sublime. Cette observation préliminaire est très importante. Elle sépare entièrement les idées du sublime et celles d'une finalité de la nature. Elle fait de la théorie du sublime un simple appendice au jugement esthétique de la finalité de la nature, puisque ces idées du sublime ne représentent dans la nature aucune forme particulière, mais qu'elles consistent dans un certain usage supérieur que l'imagination fait de ses représentations. Paragraphe 24. Division d'un examen du sentiment du sublime. La division des moments du jugement esthétique des objets, relativement au sentiment du sublime, doit être fondée sur le même principe que celle des jugements de goût. Car le jugement esthétique, réfléchissant, doit représenter la satisfaction du sublime aussi bien que celle du beau, comme universellement valable quant à la quantité, comme désintéressé quant à la qualité, comme sentiment d'une finalité subjective quant à la relation, et le sentiment de cette finalité doit être représenté comme nécessaire quant à la modalité. L'analytique ne s'écartera donc pas ici de la méthode qu'elle a suivie dans le livre précédent, à moins qu'on ne compte pour quelque chose cette différence que là, le jugement esthétique concernant la forme de l'objet, nous devions commencer par l'examen de sa qualité, tandis qu'ici, à cause de cette absence de forme qui est le propre des objets appelés sublimes, nous commencerons par la quantité. C'est là en effet le premier moment du jugement esthétique sur le sublime. On en peut voir la raison dans le paragraphe précédent. Mais l'analyse du sublime entraîne une division dont n'a pas besoin celle du beau, à savoir la division en sublime mathématique et en sublime dynamique. En effet, comme le sentiment du sublime a pour caractère de produire un mouvement de l'esprit lié au jugement de l'objet, tandis que le goût du beau suppose et retient l'esprit dans une calme contemplation, et qu'on doit attribuer à ce mouvement une finalité subjective, puisque le sublime plaît. L'imagination le rapporte ou bien à la faculté de connaître, ou bien à la faculté de désirer. Dans l'un comme dans l'autre cas, la représentation ne doit être jugée que relativement à ses facultés, sans but ni intérêt. Mais dans le premier cas, la finalité est attribuée à l'objet, comme une détermination mathématique. dans le second cas, comme une détermination dynamique de l'imagination. De là, deux manières de concevoir le sublime. A. Du sublime mathématique. Paragraphe 25. Définition du mot sublime. Nous appelons sublime ce qui est absolument grand. Mais parler d'une chose grande et d'une grandeur, c'est exprimer deux concepts tout à fait différents. Magnitudo et quantitas. De même, dire simplement simpliciter qu'une chose est grande, ce n'est pas dire qu'elle est absolument grande. Absolute non comparative magnum. Dans ce dernier cas, la chose est grande au-dessus de toute comparaison. Mais que signifie cette expression qu'une chose est grande ou petite ou moyenne ? Ce n'est pas un concept pur de l'entendement, encore moins une intuition des sens, et pas davantage un concept rationnel, car il n'y a ici aucun principe de connaissance. Il faut donc que ce soit un concept de la faculté de juger, ou qui en dérive, et qui ait son principe dans une finalité subjective de la représentation pour la faculté de juger. Pour dire qu'une chose est grande, un quantum, nous n'avons pas besoin de la comparer avec d'autres, il nous suffit de reconnaître que la pluralité des éléments qui la composent constitue une unité. Mais pour savoir combien la chose est grande, il faut toujours quelque autre chose qui soit aussi une grandeur et qui serve de mesure. Or, comme dans le jugement de la grandeur, il ne s'agit pas seulement de la pluralité du nombre, mais aussi de la grandeur de l'unité, de la mesure, et que la grandeur de cette dernière a toujours besoin de quelque autre chose, encore qu'il lui serve de mesure et avec laquelle elle puisse être comparée, on voit que toute détermination de la grandeur des phénomènes ne peut fournir un concept absolu de la grandeur, mais seulement un concept de comparaison. Quand je dis simplement qu'une chose est grande, il semble que je ne fasse point de comparaison, du moins avec une mesure objective, puisque je ne détermine point par là combien la chose est grande. Or, quoique la mesure de comparaison soit purement subjective, le jugement n'en prétend pas moins à une approbation universelle. Ces jugements, cet homme est beau, il est grand, non pas seulement de valeur pour celui qui les porte, comme les jugements théoriques, ils réclament l'assentiment de chacun. Comme en jugeant simplement qu'une chose est grande, nous ne voulons pas dire seulement que cette chose a une grandeur, mais que cette grandeur est supérieure à celle de beaucoup d'autres choses de la même espèce, sans déterminer davantage cette supériorité, nous donnons pour principe à notre jugement une mesure à laquelle nous croyons pouvoir attribuer une valeur universelle, et qui cependant ne nous sert point à former un jugement logique, mathématiquement déterminé, sur la grandeur. Mais seulement un jugement esthétique, puisqu'elle n'est qu'un principe subjectif pour le jugement réfléchissant sur la grandeur. Cette mesure, d'ailleurs, peut être ou une mesure empirique, comme par exemple la grandeur moyenne des hommes que nous connaissons, des animaux d'une certaine espèce, des arbres, des maisons, des montagnes, etc., ou une mesure donnée a priori, et que la faiblesse de notre esprit astreint aux conditions subjectives d'une présentation in concreto, comme dans la sphère pratique, la grandeur d'une certaine vertu, de la liberté publique, de la justice d'un pays, ou dans la sphère théorique, la grandeur de l'exactitude ou de l'inexactitude d'une observation ou d'une mesure établie, etc. Or, il est remarquable que, bien que nous n'attachions aucun intérêt à l'objet, c'est-à-dire bien que son existence nous soit indifférente, sa seule grandeur, même quand nous le considérons comme informe, peut produire en nous une satisfaction universelle, et par conséquent la conscience d'une finalité subjective dans l'usage de nos facultés de connaître. Mais cette satisfaction n'est pas attachée à l'objet, puisque cet objet peut être informe. Comme cela est vrai du beau, où le jugement réfléchissant se trouve déterminée d'une manière qui concorde avec la connaissance en général. Elle est attachée à l'extension de l'imagination par elle-même. Quand nous disons simplement d'un objet qu'il est grand, nous ne portons pas un jugement mathématiquement déterminé, mais un simple jugement de réflexion sur la représentation de cet objet, laquelle s'accorde subjectivement avec un certain usage de nos facultés de connaître relatif à l'estimation de la grandeur. Et nous attachons toujours à cette représentation une espèce d'estime, comme à ce que nous appelons simplement petit, une espèce de mépris. Au reste, les jugements par lesquels nous considérons les choses comme grandes ou comme petites portent sur tout, même sur leur qualité. C'est pourquoi nous appelons la beauté grande ou petite. La raison en est que, quelle que soit la chose dont nous trouvions une présentation dans l'intuition, que par conséquent nous nous représentions esthétiquement, c'est toujours un phénomène, par conséquent, un quantum, une quantité déterminée. Mais quand nous disons qu'une chose est non seulement grande, mais grande absolument, et à tous égards, au-dessus de toute comparaison, c'est-à-dire sublime, nous ne permettons pas, comme on le voit aisément, qu'on cherche en dehors d'elle une mesure qui lui convienne. Nous voulons qu'on la trouve en elle-même. C'est une grandeur qui n'est égale qu'à elle-même. Il suit de là qu'il ne faut pas chercher le sublime dans les choses de la nature, mais seulement dans nos idées. Quant à la question de savoir dans quelles idées il réside, nous devons la réserver pour la déduction. La définition que nous avons donnée tout à l'heure peut aussi s'exprimer de cette manière. Le sublime est ce en comparaison de quoi toute autre chose est petite. Il est aisé de voir ici qu'on ne peut rien trouver dans la nature, si grand que nous le jugions, qui, considéré sous un autre point de vue, ne puisse descendre jusqu'à l'infiniment petit, et que réciproquement, il n'y a rien de si petit qui, relativement à des mesures plus petites encore, ne puisse s'élever aux yeux de notre imagination jusqu'à la grandeur d'un monde. Les télescopes ont fourni une riche matière à la première observation, et les microscopes une riche matière à la seconde. Il n'y a donc pas d'objet des sens qui, considéré sur ce pied, puisse être appelé sublime. Mais précisément parce qu'il y a dans notre imagination un effort vers un progrès à l'infini, et dans notre raison une prétention à l'absolue totalité comme à une idée réelle, cette disconvenance même qui se manifeste entre notre faculté d'estimer la grandeur des choses du monde sensible et cette idée, éveille en nous le sentiment d'une faculté suprasensible. Et c'est l'usage que la faculté de juger fait naturellement de certains objets en faveur de ce sentiment, et non l'objet des sens, qui est absolument grand, tandis qu'en comparaison, tout autre usage est petit. Par conséquent, ce que nous nommons sublime, ce n'est pas l'objet, mais la disposition d'esprit produite par une certaine représentation occupant le jugement réfléchissant. Nous pouvons donc encore ajouter cette formule aux précédentes définitions du sublime. Le sublime est ce qui ne peut être conçu sans révéler une faculté de l'esprit qui surpasse toute mesure des sens. Paragraphe 26. De l'estimation de la grandeur des choses de la nature que suppose l'idée du sublime. L'estimation de la grandeur par des concepts de nombre, ou par leurs signes algébriques, est mathématique. Celle qui se fait par la seule intuition, à vue d'œil, est esthétique. Or, nous ne pouvons, il est vrai, sur la question de savoir combien une chose est grande, arriver à des concepts déterminés que par des nombres, dont la mesure est l'unité, tout au moins par des approximations formées par des séries numériques à l'infini. Et ainsi, toute estimation logique est mathématique. Mais, comme la grandeur de la mesure doit être acceptée comme connue, si celle-ci ne pouvait être appréciée que mathématiquement, c'est-à-dire au moyen des nombres, dont l'unité serait une autre mesure, nous ne pourrions jamais avoir une mesure première ou fondamentale, par conséquent, un concept déterminé d'une grandeur donnée. L'estimation de la grandeur d'une mesure fondamentale a donc pour caractère de pouvoir être immédiatement saisie dans une intuition et appliquée par l'imagination à la présentation des concepts de nombre. C'est-à-dire que toute estimation de la grandeur des objets de la nature est en définitive esthétique ou subjectivement et non objectivement déterminée. Maintenant, il n'y a pas de maximum pour l'estimation mathématique de la grandeur, car la puissance des nombres s'étend à l'infini. Mais il y en a certainement un pour l'estimation esthétique. Et ce maximum, considéré comme une mesure absolue, au-dessus de laquelle aucune autre n'est subjectivement possible pour l'esprit qui juge, contient l'idée du sublime, et produit cette émotion que ne peut jamais produire l'estimation mathématique de la grandeur, à moins que cette mesure esthétique ne reste présente à l'imagination. L'estimation mathématique, en effet, n'exprime jamais que la grandeur relative, ou établie par comparaison avec d'autres de la même espèce, tandis que la première exprime la grandeur absolument, telle que l'esprit peut la saisir dans une intuition. Qu'une quantité déterminée soit saisie intuitivement par l'imagination afin de pouvoir servir de mesure ou d'unité dans une évaluation de la grandeur, par des nombres. Cela nécessite deux opérations de cette faculté. L'appréhension, appréhensio, et la compréhension, comprehensio a esthetica. L'appréhension ne présente pas de difficulté car on peut la continuer à l'infini. Mais la compréhension devient d'autant plus difficile que l'appréhension est poussée plus loin, et elle parvient bientôt à son maximum, à savoir à la plus grande mesure esthétique possible de l'estimation de la grandeur. Car lorsque l'appréhension est allée si loin que les premières représentations partielles de l'intuition sensible commencent déjà à s'éteindre dans l'imagination, tandis que celle-ci continue toujours son appréhension, elle perd d'un côté ce qu'elle gagne de l'autre, et la compréhension retombe toujours sur un maximum qu'elle ne peut dépasser. On peut s'expliquer par là ce que remarque Savary dans ses lettres sur l'Égypte, qu'il ne faut ni trop s'approcher, ni trop s'éloigner des pyramides pour éprouver toute l'émotion que cause leur grandeur. Car si on s'en éloigne trop, les parties perçues, les pierres superposées, sont obscurément représentées, et cette représentation ne produit aucun effet sur le jugement esthétique. Si au contraire on s'en approche trop, l'œil a besoin de quelque temps pour continuer son appréhension de la base au sommet. Et dans cette opération, les premières représentations s'éteignent toujours en partie avant que l'imagination ait reçu les dernières, en sorte que la compréhension n'est jamais complète. On expliquera aussi de la même manière le trouble ou l'espèce d'embarras qui saisit à ce qu'on raconte celui qui entre pour la première fois dans l'église de Saint-Pierre de Rome. C'est ici en effet le sentiment de l'incapacité de notre imagination à se former une présentation des idées d'un tout. Elle a atteint son maximum, en s'efforçant de l'étendre, elle retombe sur elle-même, ce qui produit une certaine satisfaction qui nous émeut. Je ne veux point parler encore du principe de cette satisfaction liée à une représentation dont, ce semble, on ne devrait guère l'attendre, c'est-à-dire à une représentation dont nous saisissons la disconvenance subjective avec l'imagination. Je ferai seulement remarquer que, si on veut un jugement esthétique pur, qui ne soit point mêlé avec un jugement téléologique ou un jugement rationnel, pour le proposer comme un exemple tout à fait propre à la critique du jugement esthétique, il ne faut pas chercher le sublime dans les productions de l'art, par exemple dans les édifices, les colonnes, etc., où un but humain déterminera la forme aussi bien que la grandeur, ni dans les choses de la nature dont le concept tient déjà à un but déterminé, par exemple dans les animaux d'une destination connue, mais dans la nature sauvage. Et encore, à condition qu'elle n'offre aucun attrait et n'excite aucune crainte par quelque danger réel, entend seulement qu'elle contient de la grandeur. Dans cette espèce de représentation, la nature ne renferme rien de monstrueux, de magnifique ou de terrible. La grandeur qu'on y saisit peut être étendue à volonté, pourvu que l'imagination puisse en former un tout. Un objet est monstrueux, ungeheuer, quand il détruit par sa grandeur la fin qui constitue son concept. On appelle colossal la présentation d'un concept quand elle est presque trop grande pour toute présentation, quand elle touche au monstrueux relatif. Car le but de la présentation d'un concept est manqué, par cela même que l'intuition de l'objet est presque trop grande pour notre faculté d'appréhension. Mais un pur jugement sur le sublime ne doit point être fondé sur le concept d'une fin de l'objet, sous peine de ne pas être esthétique, et de se mêler avec quelque jugement de l'entendement ou de la raison. Puisque la représentation de toute chose qui plaît sans intérêt au jugement réfléchissant contient nécessairement une finalité subjective et universelle, mais qu'ici le jugement ne se fonde point comme pour le beau sur une finalité de la forme de l'objet, on demande quelle est cette finalité subjective, et d'où vient qu'elle est pour nous une règle qui nous fait attacher une satisfaction agréable à un simple jugement de grandeur, et à un jugement où notre faculté d'imagination se trouve impuissante à l'endroit de la présentation du concept d'une grandeur. L'imagination, dans la compréhension qu'exige la représentation de la grandeur, s'avance d'elle-même indéfiniment, sans que rien ne lui fasse obstacle. Mais l'entendement la conduit au moyen des concepts de nombre dont elle doit fournir le schème, et comme cette opération se rapporte à l'estimation logique de la grandeur, elle a une finalité objective. Elle se fonde sur le concept d'une fin, comme est toute mesure. Il n'y a rien là qui s'adresse et qui plaise au jugement esthétique, il n'y a rien non plus qui oblige à pousser la grandeur de la mesure, par conséquent, celle de la compréhension de la pluralité en une intuition jusqu'aux limites de la faculté d'imagination, jusqu'où celle-ci peut étendre sa présentation. Car, dans l'estimation intellectuelle des grandeurs en arithmétique, qu'on pousse la compréhension des unités jusqu'au nombre 10, comme dans l'arithmétique de base 10, ou seulement jusqu'au 4, comme dans l'arithmétique de base 4, cela revient au même. Dans cette estimation mathématique de la grandeur, l'entendement est également satisfait quand l'imagination choisit pour unité une grandeur qu'on peut saisir d'un coup d'œil, comme un pied ou une perche, et quand elle choisit un mille allemand ou même le diamètre de la Terre, dont l'appréhension est possible dans une intuition de l'imagination, mais non la compréhension. Je parle de la compréhension esthetica, non de la compréhensio logica dans un concept de nombre. Dans les deux cas, l'estimation logique de la grandeur s'étend sans obstacle jusqu'à l'infini. Mais l'esprit entend en lui-même la voix de la raison qui, pour toutes les grandeurs données, même pour celles que l'appréhension ne peut jamais entièrement saisir, mais qu'on doit pourtant juger dans la représentation sensible comme entièrement donnée, exige la totalité. Par conséquent, la compréhension dans une intuition et pour tous ses membres d'une série croissante de nombres, la présentation, et qui même n'exclut pas l'infini, l'espace et le temps écoulé, de cette exigence, mais nous oblige au contraire à le concevoir, dans le jugement de la raison commune, comme donné en totalité, en entier. Or, l'infini est absolument, et non pas seulement comparativement, grand. Toute autre chose, de la même espèce de grandeur, et petite en comparaison de lui. Mais ce qui est le plus important, c'est que le simple fait de pouvoir penser l'infini comme un tout indique qu'il existe une faculté de l'esprit dépassant toute mesure des sens. Car on ne peut admettre qu'une compréhension nous fournisse pour unité une mesure qui aurait un rapport déterminé, exprimable en nombre, avec l'infini. Si donc il est possible au moins de concevoir l'infini sans contradiction, il faut admettre pour cela dans l'esprit humain une faculté qui elle-même soit suprasensible. C'est à cette faculté, et à l'idée qu'elle nous fournit d'un noumen, qui ne donne lieu lui-même à aucune intuition, mais qui sert de substratum à l'intuition du monde, considérée comme phénomène. Donc c'est à cette idée que nous devons de comprendre tout entier sous un concept l'infini du monde sensible, dans une estimation pure et intellectuelle de la grandeur, quoique nous ne puissions jamais le concevoir mathématiquement par des concepts de nombre. Cette faculté que nous avons de concevoir comme donnée dans son substratum intelligible l'infini de l'intuition suprasensible dépasse toute mesure de la sensibilité, et elle est même plus grande, sans aucune comparaison possible, que la faculté d'estimation mathématique. Ce n'est pas qu'au point de vue théorique, elle vienne au secours de la faculté de connaître, mais elle donne de l'extension à l'esprit qui se sent capable, à un autre point de vue, au point de vue pratique, de dépasser les limites de la sensibilité. La nature est donc sublime dans ceux de ces phénomènes dont l'intuition entraîne l'idée de son infinité. Ce qui ne peut arriver qu'à cause du défaut et par suite d'un très grand effort de l'imagination dans l'estimation de la grandeur d'un objet. Or, dans l'estimation mathématique des grandeurs, l'imagination est capable de donner pour chaque objet une mesure suffisante, car les concepts numériques de l'entendement peuvent par progression adapter toute mesure à toute grandeur. C'est donc dans l'estimation esthétique de la grandeur que l'effort tenté pour atteindre la compréhension dépasse le pouvoir de l'imagination. C'est là qu'avec le sentiment d'une appréhension qui tend progressivement à un tout d'intuition, nous apercevons l'inaptitude de l'imagination, dont le progrès n'a pas de limite, à saisir et à appliquer une mesure capable de servir à l'estimation de la grandeur sans donner aucune peine à l'entendement. Or, la vraie mesure immuable de la nature est son absolue totalité, c'est-à-dire la compréhension de l'infinité de la nature envisagée comme phénomène. Mais comme cette mesure est un concept contradictoire en soi, à cause de l'impossibilité de l'absolue totalité d'un progrès sans fin. La grandeur d'un objet de la nature, pour laquelle l'imagination dépense en vain toute sa faculté de compréhension, conduira nécessairement du concept de la nature à un substrat suprasensible, servant à la fois de fondement à la nature et à notre faculté de penser. Substrat qui est grand au-delà de toute mesure des sens, et par conséquent, ce sera moins l'objet qu'elle nous fera regarder comme sublime que l'état de l'esprit dans l'estimation de cet objet. Ainsi, de même que le jugement esthétique en matière de beau rapporte le libre jeu de l'imagination à l'entendement pour la mettre d'accord avec des concepts intellectuels en général, sans les déterminer. De même, en matière de sublime, il rapporte cette même faculté à la raison, pour l'accorder subjectivement avec des idées rationnelles indéterminées. C'est-à-dire pour produire un état de l'esprit conforme à celui que produirait sur le sentiment l'influence d'idées déterminées, pratiques, est très conciliable avec lui. On voit aussi par là que la véritable sublimité ne doit être cherchée que dans l'esprit de celui qui juge, non dans l'objet de la nature, dont le jugement occasionne cet état. Qui voudrait appeler sublime des montagnes informes, entassées les unes sur les autres dans un désordre sauvage, avec leurs pyramides de glace, ou une mer sombre et orageuse, ou d'autres choses de cette espèce. Mais l'esprit se sent élevé dans sa propre estime lorsque, contemplant ces choses sans avoir égard à leur forme, il abandonne à l'imagination et à la raison, laquelle, tout en s'unissant à l'imagination sans but déterminé, a pour effet de l'étendre, et qu'il sent combien toute la puissance de son imagination est inférieure aux idées de sa raison. Les exemples du sublime mathématique de la nature, dans la simple intuition que nous en avons, nous présentent tous des cas où on donne moins pour mesure à l'imagination un grand concept numérique qu'une grande unité, afin d'abréger les séries numériques. Nous estimons la grandeur d'un arbre d'après celle de l'homme, cette grandeur sert sans doute ensuite de mesure pour une montagne, et si celle-ci est haute d'un mille, elle peut servir d'unité pour le nombre qui exprime le diamètre de la Terre, et faire de celui-ci un objet d'intuition. À son tour, ce diamètre de la Terre peut servir pour tout le système planétaire que nous connaissons, celui-ci pour le système de la Voie lactée, et pour l'innombrable quantité de ces voies lactées appelées étoiles nébuleuses, qui constituent probablement entre elles un semblable système, et il n'y a pas ici de limite à chercher. Or, le sublime, dans le jugement esthétique que nous portons sur un tout aussi immense, consiste moins dans la grandeur du nombre qu'en ce qu'en avançant nous arrivons toujours à des unités plus grandes, en quoi nous sommes aidés par la description systématique du monde. C'est ainsi que toute la nature nous paraît petite à son tour et que notre imagination, malgré toute son infinité, et la nature avec elle s'évanouissent devant les idées de la raison, quand on veut trouver une présentation qui leur convienne. Paragraphe 27. De la qualité de la satisfaction attachée au jugement du sublime. Le sentiment de notre incapacité à atteindre une idée qui est pour nous une loi, c'est l'estime. Or, l'idée de la compréhension de tout phénomène possible dans l'intuition d'un tout nous est prescrite par une loi de la raison qui ne reconnaît d'autres mesures universelles et immuables que le tout absolu. Mais notre imagination, même dans son plus grand effort, montre ses limites et son inaptitude à l'égard de cette compréhension d'un objet donné en un tout d'intuition qu'on attend d'elle, par conséquent à l'égard de la présentation de l'idée de la raison. Mais en même temps, elle montre aussi que sa destination est de chercher à s'accorder avec cette idée comme avec une loi. Ainsi, le sentiment du sublime dans la nature est un sentiment d'estime pour notre propre destination. Mais par une sorte de substitution, en convertissant en estime pour l'objet celle que nous éprouvons pour l'idée de l'humanité en nous, nous rapportons ce sentiment à un objet de la nature qui nous rend comme visible la supériorité de la destination rationnelle de nos facultés de connaître sur le plus grand pouvoir de la sensibilité. Le sentiment du sublime est donc à la fois un sentiment de peine qui naît de la disconvenance de l'imagination dans l'estimation esthétique de la grandeur avec l'estimation rationnelle, et un sentiment de plaisir produit par l'accord de ce même jugement que nous portons sur l'impuissance des plus grands efforts de la sensibilité avec des idées de la raison, en tant que c'est pour nous une loi de toujours tendre vers ces idées. C'est en effet pour nous une loi de la raison, et il est dans notre destination de regarder comme petit, en comparaison des idées de la raison, tout ce que la nature, en tant qu'objet d'essence, contient de grand pour nous. Et ce qui excite en nous le sentiment de cette destination suprasensible s'accorde avec cette loi. Or, l'effort extrême que fait l'imagination pour arriver à la présentation de l'unité dans l'estimation de la grandeur indique une relation à quelque chose d'absolument grand, par conséquent aussi une relation à cette loi de la raison qui ne permet pas une autre mesure suprême des grandeurs. Ainsi, la perception intérieure de la disconvenance de toute mesure sensible avec l'estimation rationnelle de la grandeur suppose une conformité aux lois de la raison. Elle contient une peine, excitée en nous par le sentiment de notre destination suprasensible, pour laquelle découvrir que tout critère de la sensibilité est inadéquat par rapport aux idées de la raison, est conforme à une finalité et provoque donc du plaisir. Dans la représentation du sublime, de la nature, l'esprit se sent ému. Tandis que dans ses jugements esthétiques sur le beau de la nature, il reste dans une calme contemplation. Cette émotion, surtout à son début, est comme un ébranlement dans lequel nous nous sentons alternativement et rapidement attirés et repoussés par le même objet. Le transcendant est pour l'imagination, qui y est poussée dans l'appréhension de l'intuition, comme un abîme où elle craint de se perdre. Mais pour l'idée rationnelle du suprasensible, il n'y a rien de transcendant. Il n'y a rien que de légitime à tenter un pareil effort d'imagination. Par conséquent, il y a ici une attraction précisément égale à la répulsion qui agit sur la pure sensibilité. Mais le jugement même n'est toujours qu'esthétique, parce que, sans se fonder sur aucun concept déterminé de l'objet, il se borne à représenter le jeu subjectif des facultés de l'esprit, l'imagination et la raison, comme harmonieux dans leur contraste même. Car l'imagination et la raison, par leur opposition, comme dans le jugement du beau, l'imagination et l'entendement, par leur accord, produisent une finalité subjective des facultés de l'esprit, c'est-à-dire le sentiment que nous avons une raison pure, indépendante, ou une faculté d'estimer la grandeur dont la supériorité ne peut être rendue sensible qu'au moyen de l'insuffisance de l'imagination, qui est elle-même illimitée dans la présentation des grandeurs, des objets sensibles. La mesure d'un espace, en tant qu'appréhension, est en même temps une description de cet espace, par conséquent un mouvement objectif de l'imagination, et une progression. La compréhension de la pluralité dans l'unité, non par la pensée mais par l'intuition, par conséquent la compréhension en un moment des éléments successivement saisis, est au contraire une régression qui supprime la condition du temps dans la progression de l'imagination et nous donne la coexistence. C'est donc, puisque la succession du temps est une condition subjective de l'imagination, un mouvement subjectif de l'imagination, par lequel cette faculté fait violence au sens intime et qui doit être d'autant plus remarquable que le quantum compris par l'imagination dans une intuition est plus grand. Ainsi, l'effort tenté pour saisir dans une intuition unique une mesure de grandeur dont l'appréhension exige beaucoup de temps est un mode de représentation, qui subjectivement considéré ne s'accorde pas avec le but qu'il se propose, mais qui contient une finalité objective, puisqu'il est nécessaire à l'estimation de la grandeur, et cette violence même que l'imagination fait au sujet est jugée conforme à toute la destination de l'esprit. La qualité du sentiment du sublime consiste en ce qu'il est le sentiment d'un déplaisir, qui se lie à la faculté de juger esthétiquement d'un objet, et dans lequel nous nous représentons en même temps une finalité. C'est qu'en effet, la conscience de notre propre impuissance éveille celle d'une faculté illimitée, et que l'esprit ne peut juger esthétiquement de celle-ci que par celle-là. Dans l'estimation logique de la grandeur, l'impossibilité d'arriver à l'absolue totalité, par la progression de la mesure des choses du monde sensible dans le temps et dans l'espace, était regardée comme objective, c'est-à-dire comme une impossibilité de concevoir l'infini comme donné tout entier. et non pas comme purement subjective, c'est-à-dire comme une impuissance à le saisir. Car il ne s'agit pas là du degré de la compréhension dans une intuition prise pour mesure, mais tout se rapporte à un concept de nombre. Mais dans une estimation esthétique de la grandeur, le concept de nombre doit être écarté ou modifié, et la compréhension de l'imagination comme unité de mesure, abstraction faite par conséquent des concepts d'une loi de la génération successive des concepts de grandeur, est seule conforme à ce genre d'estimation. Or, quand une grandeur touche presque la limite de notre faculté de compréhension par intuition, et que l'imagination est provoquée par des quantités numériques, dans lesquelles nous sentons que notre puissance n'a pas de limite, à chercher la compréhension esthétique d'une plus grande unité, nous nous sentons alors esthétiquement renfermés dans des limites. Mais en même temps, en considérant l'extension que cherche à prendre l'imagination pour s'accorder à ce qui est illimité dans notre faculté de raison, c'est-à-dire à l'idée de la totalité absolue, nous trouvons une certaine finalité dans la peine que nous éprouvons, et par conséquent dans la disconvenance de l'imagination avec les idées rationnelles que cette disconvenance même a pour effet d'éveiller. Voilà comment le jugement esthétique renferme une finalité subjective pour la raison en tant que source d'idées, c'est-à-dire une compréhension intellectuelle auprès de laquelle toute compréhension esthétique est petite. Et c'est ainsi qu'en déclarant un objet sublime, nous éprouvons un sentiment de plaisir qui n'est possible qu'au moyen d'un sentiment de peine. B. Du sublime dynamique de la nature. Paragraphe 28. De la nature considérée comme une puissance. On appelle puissance un pouvoir supérieur à de grands obstacles. On dit que cette puissance a de l'empire quand elle est supérieure à la résistance que lui oppose une autre puissance. La nature, considérée dans le jugement esthétique comme une puissance qui n'a aucun empire sur nous, est dynamiquement sublime. Pour juger la nature dynamiquement sublime, il faut se la représenter comme excitant la crainte, quoique la réciproque ne soit pas vraie, c'est-à-dire que tout objet qui excite la crainte ne soit pas sublime. En effet, dans le jugement esthétique, sans concept, on ne peut juger de la supériorité sur des obstacles que d'après la grandeur de la résistance. Or, toute chose à laquelle nous nous efforçons de résister est un mal, et si nous trouvons que nos forces sont au-dessous de cette chose, elle est pour nous un objet de crainte. Ainsi, pour le jugement esthétique, la nature ne peut être considérée comme une puissance, par conséquent comme dynamiquement sublime, qu'autant qu'elle est considérée comme un objet de crainte. Mais on peut considérer un objet comme redoutable sans avoir peur devant lui. C'est à savoir quand nous le jugeons de telle sorte que nous nous bornons à concevoir le cas où nous voudrions lui faire quelque résistance et que nous voyons qu'alors toute résistance serait vaine. Ainsi, l'homme vertueux craint Dieu sans avoir peur devant lui, parce qu'il ne pense pas avoir à craindre un cas où il voudrait résister à Dieu et à ses ordres. Mais pour toute cette sorte de cas qu'il ne regarde pas comme impossible en soi, il déclare Dieu redoutable. Celui qui a peur ne peut pas plus juger du sublime de la nature que celui qui est dominé par l'inclination et le désir ne peut juger du beau. Il fuit l'aspect de l'objet qui lui inspire cette crainte, car il est impossible de trouver de la satisfaction dans une crainte sérieuse. Aussi, le sentiment que nous éprouvons quand nous nous sentons délivrés d'un danger est-il un sentiment de joie? Mais cette joie suppose que nous ne serons plus exposés à ce danger. Et bien loin de chercher l'occasion de nous rappeler la sensation que nous avons éprouvée, nous la repoussons de notre esprit. Des rochers audacieux, suspendus dans l'air et comme menaçants, des nuages orageux se rassemblant au ciel au milieu des éclairs et du tonnerre, des volcans déchaînant toute leur puissance de destruction, des ouragans semant après eux la dévastation, l'immense océan soulevé par la tempête, la cataracte d'un grand fleuve, etc. Ce sont là des choses qui réduisent à une insignifiante petitesse notre pouvoir de résistance, comparé avec de telles puissances. Mais l'aspect en est d'autant plus attrayant qu'il est plus terrible, pourvu que nous soyons en sûreté. Et nous nommons volontiers ces choses sublimes, parce qu'elles élèvent les forces de l'âme au-dessus de leur médiocrité ordinaire, et qu'elles nous font découvrir en nous-mêmes un pouvoir de résistance d'une toute autre espèce qui nous donne le courage de nous mesurer avec la toute-puissance apparente de la nature. En effet, de même que l'immensité de la nature et notre incapacité à trouver une mesure propre à l'estimation esthétique de la grandeur de son domaine, nous ont révélé notre propre limitation, mais nous ont fait découvrir en même temps, dans notre faculté de raison, une autre mesure non sensible qui comprend en elle cette infinité même comme une unité, et devant laquelle tout est petit dans la nature, et nous ont montré par là, dans notre esprit, une supériorité sur la nature, considérée dans son immensité. De même, l'impossibilité de résister à sa puissance nous fait reconnaître notre faiblesse en tant qu'être de la nature, mais elle nous découvre en même temps une faculté par laquelle nous nous jugeons indépendants de la nature, et elle nous révèle ainsi une nouvelle supériorité sur elle. Cette supériorité est le principe d'une espèce de conservation de soi-même bien différente de celle qui peut être attaquée et mise en danger par la nature extérieure. Car l'humanité dans notre personne reste ferme, alors même que l'homme cède à cette puissance. Ainsi, dans nos jugements esthétiques, la nature n'est pas jugée sublime en tant qu'elle est terrible, mais parce qu'elle engage la force que nous sommes, et qui n'est pas la nature, à regarder comme rien les choses dont nous nous inquiétons, les biens, la santé et la vie, et à considérer cette puissance de la nature à laquelle, il est vrai, nous sommes soumis relativement à ces choses, comme n'ayant aucun empire sur nous-mêmes, sur notre personnalité, dès qu'il s'agit de nos principes suprêmes, de l'accomplissement ou de la violation de ces principes. La nature n'est donc ici nommée sublime que par l'imagination qui l'élève jusqu'à en faire une exhibition de ces cas où l'esprit peut se rendre sensible sa propre sublimité ou la supériorité de sa propre destination sur la nature. Cette estime de soi-même ne perd rien à cette condition qui exige que nous soyons en sûreté pour éprouver cette satisfaction vivifiante et que, comme il ne doit y avoir rien de sérieux dans le danger, il n'y ait rien en apparence de plus sérieux dans la sublimité de la faculté de notre esprit. C'est qu'en effet, la satisfaction ne s'adresse ici qu'à la découverte de la destination de cette faculté, en tant que notre nature y est propre. Tandis que le développement et l'exercice de cette faculté nous sont confiés et sont obligatoires. Et c'est la vérité, quelque claire conscience que l'homme puisse avoir de son impuissance présente et réelle, quand il pousse sa réflexion jusque-là. Ce principe paraît tiré de bien loin, bien subtil, et par conséquent au-dessus de la portée d'un jugement esthétique. Mais l'observation de l'homme prouve le contraire et montre qu'il sert de base aux jugements les plus vulgaires, quoiqu'on n'en ait pas toujours conscience. Quel est en effet, même pour un sauvage, le plus grand objet d'étonnement? Un homme inaccessible à la crainte, qui par conséquent ne recule pas devant le danger, mais qui en même temps agit avec réflexion. Même dans la plus grande civilisation, la plus haute estime est pour le guerrier, mais à une condition, c'est qu'il montre aussi toutes les vertus de la paix, la douceur, la pitié, et même un soin convenable de sa propre personne, car c'est par là précisément qu'il fait paraître toute la force de son âme contre le danger. Aussi, qu'on dispute tant qu'on voudra sur la question de savoir lequel de l'homme d'État ou du chef d'armée mérite la préférence dans notre estime, le jugement esthétique décide en faveur de ce dernier. La guerre même, quand elle est faite avec ordre et respect pour le droit des gens, a quelque chose de sublime, et elle rend l'esprit du peuple qui l'a fait ainsi d'autant plus sublime qu'il y est exposé à plus de dangers et qu'il s'y soutient courageusement. Au contraire, une longue paix a ordinairement pour effet d'amener la domination de l'esprit mercantile, des plus bas intérêts personnels, de la lâcheté et de la mollesse, et elle abaisse l'esprit public. À cette explication du concept du sublime, qui consiste à l'attribuer à la puissance, on pourrait objecter que nous avons coutume de nous représenter Dieu montrant sa colère et révélant sa sublimité dans les tempêtes, dans les orages, dans les tremblements de terre, et que dans ces cas, il y aurait témérité et folie à imaginer une supériorité de notre esprit sur les effets, et à ce qu'il semble sur les fins d'une telle puissance. Ce n'est pas, dit-on, le sentiment de la sublimité de notre propre nature, mais bien plutôt l'abattement, le sentiment de notre entière impuissance, qui semble être l'état convenable en présence d'un tel être, et qui accompagne ordinairement l'idée que nous nous faisons de cet être en présence de ces sortes d'événements de la nature. Dans les religions en général, la seule manière d'être qui convienne en présence de la divinité, c'est de se prosterner, d'adorer en baissant la tête, avec un visage triste, une voix tremblante. Aussi la plupart des peuples l'ont-ils adopté et l'observent-ils encore. Mais cette disposition d'esprit est loin d'être liée par elle-même et nécessairement à l'idée de la sublimité de la religion et de l'objet de la religion. L'homme qui craint réellement, parce qu'il en trouve le sujet en lui-même, ayant conscience de péché par de coupables pensées envers une puissance dont la volonté est irrésistible mais juste. Celui-là n'est pas dans la disposition d'esprit convenable pour admirer la grandeur divine. Il faut pour cela se sentir disposé à une calme contemplation et avoir le jugement tout à fait libre. Mais quand l'homme a conscience de la droiture de ses sentiments et laissé agréable à Dieu, alors seulement les effets de la puissance divine servent à réveiller en lui l'idée de la sublimité de cet être, car alors il sent en lui-même une sublimité de cœur conforme à sa volonté. Et par là, il est délivré de toute crainte en présence de ces effets de la nature qu'il ne regarde plus comme des effets de la colère divine. L'humilité même, ou la condamnation sévère de ses défauts, qui peuvent d'ailleurs aisément trouver leurs excuses, même aux yeux d'une conscience pure, dans la fragilité de la nature humaine, est une sublime disposition d'esprit qui consiste à se soumettre volontairement à la douleur des remords pour en détruire la cause peu à peu. C'est par là seulement que la religion se distingue essentiellement de la superstition. La superstition n'inspire pas à l'esprit le sentiment du respect pour le sublime, mais elle le jette, plein de crainte et d'angoisse, aux pieds d'un être tout-puissant, à la volonté duquel l'homme effrayé se voit soumis, sans pourtant lui accorder son respect. Aussi, la flatterie et les hommages intéressés prennent-ils alors la place de la religion, qui convient à une bonne vie. La sublimité ne réside donc en aucun objet de la nature, mais seulement dans notre esprit, en tant que nous pouvons avoir conscience d'être supérieurs à la nature qui est en nous, et par là aussi à la nature qui est hors de nous, en tant qu'elle a de l'influence sur nous. Toutes les choses qui excitent ce sentiment, et de ce nombre et la puissance de la nature qui provoquent nos forces, s'appellent alors, quoique improprement, sublimes. Ce n'est qu'en supposant cette idée en nous, et relativement à elle, que nous sommes capables d'arriver à l'idée de la sublimité de cet être qui ne produit pas seulement en nous un respect intérieur par la puissance qu'il révèle dans la nature, mais bien plutôt par le pouvoir qui est en nous de regarder celle-ci sans crainte et de concevoir la supériorité de notre destination. Paragraphe 29. De la modalité du jugement sur le sublime de la nature. Il y a dans la nature une infinité de choses belles pour lesquelles nous supposons et pouvons même attendre sans nous tromper un parfait accord entre le jugement d'autrui et le nôtre. Mais dans notre jugement sur le sublime de la nature, nous ne pouvons pas nous promettre aussi facilement l'assentiment d'autrui. En effet, une culture beaucoup plus grande, non seulement de la faculté de juger esthétique, mais aussi des facultés de connaître qui en sont le principe, semble nécessaire pour qu'on puisse porter un jugement sur l'excellence des objets de la nature. La disposition d'esprit qui convient au sentiment du sublime est une disposition particulière pour les idées, car c'est précisément dans la disconvenance de la nature avec les idées, dans l'effort tenté par l'imagination pour traiter la nature comme un schème relativement aux idées, que consiste pour la sensibilité le terrible qui, en même temps, est attrayant. Il est attrayant pour elle en même temps que terrible, car il y a là une influence que la raison exerce sur elle, afin de l'étendre conformément à son propre domaine, le domaine pratique, et de lui faire entrevoir l'infini qui est un abîme pour elle. Et, dans le fait, ce qu'un esprit préparé par une certaine culture appelle sublime ne se présente à l'homme grossier, en qui les idées morales ne sont pas développées, que comme terrible. Dans ces désastres où la nature montre une si grande puissance de dévastation, et devant lesquels sa propre puissance est comme anéantie, l'homme grossier ne voit que les misères, les dangers, les peines dont serait entouré l'homme qui y serait exposé. C'est ainsi que ce bon et fin paysan de la Savoie dont parle Monsieur de Saussure traitait de fou tous les amateurs des montagnes de glace. Et je n'oserais lui donner tout à fait tort si cet observateur avait affronté les dangers auxquels il s'exposait uniquement, comme la plupart des voyageurs, par curiosité, ou bien pour avoir le plaisir d'en faire dans la suite de pathétiques descriptions. Mais son but était d'instruire les autres, et cet excellent homme avait et inspirait par-dessus le marché au lecteur de ses voyages les sentiments qui élèvent l'âme. Mais si le jugement sur le sublime de la nature suppose une certaine culture, beaucoup plus que le jugement sur le beau, il n'est pas originairement né de cette culture, et ce n'est point une convention qui l'a introduit dans la société, mais il a son fondement dans la nature humaine, dans une qualité qu'on peut exiger de tous avec l'intelligence commune, à savoir dans cette disposition de notre nature sur laquelle se fonde le sentiment des idées pratiques, c'est-à-dire le sentiment moral. Or, là est précisément le principe de la nécessité que nous attribuons à nos jugements sur le sublime en exigeant l'assentiment d'autrui. De même en effet que nous reprochons un manque de goût à celui qui reste indifférent en présence d'un objet de la nature que nous trouvons beau, nous disons de celui qui n'éprouve aucune émotion devant quelque chose que nous jugeons sublime qu'il n'a pas de sentiment. Nous exigeons ces deux choses de tout homme, et s'il a quelque culture, nous les y supposons. Il n'y a ici d'autre différence, sinon que, dans le premier cas, la faculté de juger, se bornant à rapporter l'imagination à l'entendement comme à la faculté des concepts, nous l'exigeons directement de chacun. Tandis que, dans le second cas, à propos du sublime, la faculté de juger rapportant l'imagination à la raison, comme à la faculté des idées, nous ne l'exigeons que sous une condition subjective, mais que nous nous croyons le droit de demander à chacun, à savoir celle du sentiment moral, car c'est pour cela que nous attribuons de la nécessité à ce jugement esthétique. Cette modalité des jugements esthétiques, ou cette nécessité qu'on leur accorde, est un moment important pour la critique de la faculté de juger. En effet, cette qualité nous découvre dans ses jugements un principe a priori, et par là, elle les enlève à la psychologie empirique dans laquelle ils resteraient ensevelis parmi les sentiments du plaisir et de la peine, n'ayant pour se distinguer que l'insignifiante épithète des sentiments les plus délicats, et elle nous oblige à les rapporter, ainsi que la faculté de juger, à la classe de ces jugements qui s'appuient sur des principes a priori, et à les faire rentrer, comme tels, dans la philosophie transcendantale.